Aujourd'hui, on va parler valeurs et engagement. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je te propose le témoignage de Karine Lecrène. Karine a été salariée dans l'entreprise familiale. Ensuite, elle a quitté cette entreprise pour être salariée dans un grand groupe. Et finalement, elle a créé sa propre entreprise. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Karine, c'est qu'elle va nous parler de valeurs. Et on va voir que ces valeurs peuvent générer de l'engagement et que cet engagement va générer de la performance. Place à ma conversation avec Karine. Bonjour Karine.
Bonjour Cédric.
Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Je crois que tu as plein de choses passionnantes à nous dire. On va commencer avec une première question très simple. Si quelqu'un cliquait sur cet épisode, quelle est la chose la plus importante en termes de valeur avec laquelle il pourrait repartir de notre conversation?
Déjà, je te remercie pour ton invitation. Je suis honorée. J'aurais envie de dire que l'équipe est le socle de la performance en entreprise. Et que sans équipe, en fait, on peut avoir les meilleures idées, mais voilà, on n'a pas l'essentiel.
Ça me va bien. C'est un peu le thème d'outils du manager. Enfin, moi, je parle du manager, mais forcément, quand on parle du manager, on parle aussi de son équipe. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te guide dans la vie alors, je parle plutôt de la vie professionnelle, mais souvent, ça a des impacts sur la vie personnelle. C'est quoi un petit peu voilà, ton or, le truc qui te fait avancer, qui te donne envie de te lever tous les matins?
Bah, déjà, moi, je suis une passionnée, donc ma passion, c'est mon travail, le travail bien fait, la performance, être au service de mes clients, mes collaborateurs, mes fournisseurs, être dans du gagnant-gagnant, voilà, on peut pas... voilà, donc tout ça, ça fait une espèce d'alchimie qui fait que, bah, effectivement, tous les matins... Voilà, je me lève et je recommence et je ne perds pas cette flamme. Voilà.
Et ça devient de quelque part, c'est quelque chose que ça devient, je sais pas, quelquefois ça vient d'un événement qu'on a eu dans notre vie, parfois ça vient de notre enfance. C'est quoi en fait, à ton avis, l'origine de ce désir d'être au service tout en créant de la performance?
Ben, je trouve qu'on peut complètement être utile à notre écosystème et que le fait de promouvoir, d'être vraiment partie prenante dans nos jobs, hein, dans ce qu'on fait au quotidien, et ben ça a créé beaucoup de résultats, pas que des résultats financiers, mais aussi des résultats humains. Je trouve qu'on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'entrepreneur sur... Ben voilà, qu'est-ce qu'on transmet, comment on le transmet, comment on fait vivre nos valeurs, qu'est-ce qui nous anime. Et moi, j'ai de la chance parce que depuis 32 ans que je travaille maintenant, cette fougue-là, voilà. Et à des moments où c'était plus difficile, ben, j'ai fait des choix. Je suis partie, j'ai démissionné, j'ai fait pas mal de choses pour justement ne pas être... à la merci ou victime, en gros, de choses qui ne me plaisaient pas. Donc, des remises en question, de l'humilité aussi, ouais.
Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est que tu nous expliques ton parcours, savoir un petit peu d'où tu viens, par quoi tu es passé, vers quoi tu vas. Moi, j'aime bien comprendre dans quelle trajectoire les gens sont. Donc, en démarrant, peut-être, de comment tu as été élevé, puis en plus, bon, peut-être les études que tu as faites, puis après ta première expérience professionnelle, etc.
Ouais. Donc, déjà, je m'appelle donc Karine Lecrène, j'ai 53 ans, j'ai 3 grands-enfants. Voilà, je suis entrepreneur depuis 2 ans maintenant, mais j'ai une carrière dans l'agroalimentaire depuis 1991, date de mon premier emploi. Voilà, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, commerçants. Ma mère avait un hôtel-restaurant et mon père avait plusieurs entreprises, mais la dernière en date était une entreprise sur le marché de Rungis, aux poissons. où on était négociant et transformateur plus tard, et producteur de truites également en Normandie. On est originaire de Bretagne, ma mère est allemande. Voilà, donc j'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 14 ans, et j'ai continué mes études. J'ai fait un bac littéraire, j'étais plutôt douée en langue, et ensuite j'ai fait un BTS commerce international, où je pratiquais l'anglais, l'allemand, l'italien notamment. Et mon père, à son décès, évidemment, il y avait son entreprise. Donc, mon frère a repris l'entreprise. Et c'est des métiers passion, hein, c'est des métiers l'agroalimentaire, la bouffe, l'humain, tout ça. Donc, mon frère, il était ingénieur en informatique, donc rien à voir avec la choucroute. Mais il s'est pris au jeu et il m'a embarqué dans son sillage à la sortie de mes études. Et donc, je l'ai rejoint en 91. Voilà, je travaillais pendant 22 ans dans l'entreprise familiale. J'ai commencé à la base, hein, déchargement des camions, travailler de nuit, prendre du jus de poisson. Voilà, j'ai appris les codes. Une jeune femme dans un milieu difficile, masculin, poissonnier,
Il y avait
pas
une grande
très.
différence d'âge entre ton
10
frère
ans.
et toi.
10 ans. Ouais, 10 ans. Mais bon, moi aussi, je me suis pris au jeu. Puis à la sortie de mon école, je me suis dit, bon. Vendre du poisson ou des chaussettes, après tout. De toute façon, faut bien commencer. Rungis, bon, je connaissais, j'aimais bien, je venais souvent avec mon père.
D'accord.
Et puis voilà, je suis tombée dans la marmite aussi et j'ai grandi là. J'ai fait 3 enfants, je me suis mariée, j'ai divorcé. Enfin bref, j'ai fait ma vie. Et puis un jour, c'était plus confortable. Le cocon familial était, voilà, c'était un lien. Comment je pourrais dire? C'était aliénant. La charge émotionnelle était importante. Avec mon frère, on n'avait pas la même vision. Moi, je m'occupais plutôt du commerce, lui s'occupait plutôt de la production. Enfin, comme souvent en entreprise, hein, on n'est pas forcément en phase. Et puis voilà. Donc j'ai eu l'opportunité de quitter l'entreprise. Je me suis posé la question longtemps par égard à mon père. C'était aussi ça. Parfois, on a des héritages qui sont un peu lourds à porter. Je suis partie, j'ai démissionné au bout de 22 ans de bons et loyaux services. C'est un des meilleurs choix que j'ai fait, hein.
D'accord.
J'avais besoin de légitimité, j'avais besoin de beaucoup de choses en fait, et je n'étais plus utile à mon entreprise. J'avais plus l'engagement qu'il fallait. Voilà, j'avais vraiment pas l'impression d'être. Comment je pourrais dire j'avais encore des choses à lui apporter à l'entreprise.
Ouais.
Donc voilà.
En fait, c'est marrant parce que tu dis c'était plus ma zone de confort, c'est
Ouais.
ça?
Bah oui, parce que quand on
C'est
est
pas
chez
que c'était
soi,
trop confortable, au contraire.
moi, j'étais chez moi, l'entreprise portait mon nom, j'étais directeur général, je faisais ce que je voulais, j'étais actionnaire. Bon, voilà, j'aurais pu rester là, voilà, mais je gagnais bien ma vie, enfin. Mais j'avais plus j'avais l'impression que j'avais fait le tour du truc, je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus à l'entreprise, et du coup, ce confort, entre guillemets, parce qu'on m'a souvent dit, mais comment tu quittes l'entreprise familiale, enfin, t'es actionnaire, les gens, ils comprenaient pas, en fait. Mais j'avais besoin de partir, j'avais besoin de grandir, j'avais besoin de faire mon chemin, en fait. Ce chemin-là n'était pas le mien, en fait.
Il y a un truc que je vois en France, quand tu regardes les entrepreneurs, tu as un nombre extrêmement important de chefs d'entreprise sont en fait des gens qui ont hérité de l'entreprise
Oui.
familiale. En pourcentage, c'est assez considérable. Et moi, j'en ai dans mon environnement, puis dans le ciel, on en a quelques-uns. Et on a quelquefois ce truc qui est ouais, mais en fait, je suis chef d'entreprise, mais j'ai hérité. Donc, est-ce que je suis vraiment légitime ou est-ce que je suis juste là parce que je suis le
Ah,
fils
mais
de
c'est
tu vois?
terrible. Et alors, ça, je te le confirme, hein. Moi, je ne savais pas si tu es la fille d'eux, la sœur d'eux, en plus, en tant que femme, je te dis pas, c'était compliqué. J'ai mis un temps dingue avant de mon premier kilo de poisson parce que, ouais, ils voulaient boire des cafés, machin, mais moi, je dis, mais moi, j'ai pas été embauchée, même si c'est chez moi ou dans la famille pour répondre au téléphone ou pour, enfin voilà, j'avais envie de faire plein de choses. Mais oui, ce sentiment d'illégitimité, il reste longtemps. Ouais.
Et donc, tu as quitté et est-ce que...
Ouais, ça a été dur de partir. J'ai mis du temps à partir. Ça a été très dur. Ouais.
Et parce que ton frère voulait pas que tu partes ou...
Bah, il y a forcément, forcément, c'est pas simple de quitter. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu, j'ai quitté le navire. Voilà, je me sentais un peu péteuse. Enfin voilà, j'ai l'impression de quitter mon père. Mais à un moment, faut sauver sa peau.
Ouais.
Moi, j'ai été divorcée, j'avais 3 enfants en bas âge ou petits, j'avais aucune perspective, à mon sens, de mieux gagner ma vie. Enfin, il fallait que je parte, c'était fondamental. Et je voulais pas perdre mon frère non plus. Je voulais pas qu'on se fâche.
Ah, oui.
Donc voilà. Donc je suis partie.
Et t'as pas perdu ton frère, du coup?
Non. Je l'ai même retrouvé comme jamais. Bien sûr. Ouais. Ouais. Okay. Il y a des héritages qui sont pas, voilà. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix de quitter ça. Mmh. Et c'est un des meilleurs choix que j'ai fait. Ouais.
Donc ça, c'était il y a...
En 2013.
Donc, ok, il y a 7 ans, à peu près.
Ah non, il y a 11 ans.
Il y a 11 ans. ok, donc tu t'en vas, mais tu démissionnes.
Bah, je m'en vais parce qu'en fait, Rungis, c'est un petit monde aussi, hein. J'avais rencontré depuis un grand nombre d'années quelqu'un avec qui je déjeunais régulièrement et qui, je pense, voulait m'embaucher depuis longtemps. Mais bon, tu sais, quand t'es chez toi, t'imagines pas que, je sais pas, quand t'es chef de cuisine dans ton restaurant, t'imagines pas que quelqu'un va venir te débaucher, tu vois. Donc moi, j'étais dans un espèce de... Et donc, en fait, un jour, bah, je déjeune avec cette personne et en rentrant le soir, parce que j'avais commencé aussi à faire un bilan de compétences, j'avais aussi commencé un peu à... Parce que je savais pas ce que j'allais faire. Hein. J'étais poissonnière. J'avais pas de perspective en dehors de ça. Mais je voulais pas aller chez un client. Je voulais pas aller chez un fournisseur. Je voulais faire autre chose en fait. Mmh. Et cette personne m'a clairement tendu une perche. M'a proposé un poste de direction commerciale dans une entreprise de Rungis également, mais plutôt spécialisée dans la viande. Et donc j'ai pris un poste de direction commerciale d'une des filiales, dont le métier principal était de répondre à des appels d'offres publics en agroalimentaire, mais tout produit. Et moi, mon rôle était de développer une partie de négoce dans le cadre de cette entreprise-là, une espèce de deuxième pôle d'activité.
Okay.
Voilà. Et donc, je suis partie, je suis devenue salariée lambda dans une entreprise lambda. Voilà.
Ok. Et c'est très différent?
Alors, d'abord, c'était une petite structure, même si c'était dans un groupe quand même qui faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, la structure était quand même assez petite. Mais moi, je suis engagée, donc... Que je travaille pour moi ou pour quelqu'un, en fait, dans la qualité du travail et dans mon implication, c'est la même chose. Ensuite, évidemment, j'ai rencontré les aléas en entreprise, hein, forcément. Les gens entre eux, peut-être, des dysfonctionnements majeurs, parce qu'on était dans un grand open space où il y avait plusieurs sociétés du même groupe.
Ah, ok.
Mais moi, à mon niveau, mon patron à l'époque m'a laissé beaucoup de latitude. J'ai pu faire mon chemin. J'ai remplacé des gens qui sont partis. Enfin bon, et du coup, j'ai complètement changé de métier. Hein, j'ai pas fait du tout ce pourquoi j'avais été embauchée. J'ai repris la direction en fait de la partie appel d'offres. Okay. Voilà, j'ai élargi mon réseau sur d'autres produits que la marée, le poisson. Mmh. Et puis voilà, je me suis lancée, j'ai constitué mon équipe, j'ai gardé quelques collaborateurs qui étaient déjà présents. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Et puis voilà, on a fait notre bonhomme de chemin. Je suis restée une dizaine d'années. Ah ouais.
Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est je comprends ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que tu te donnais à fond, etc. Mm. Mais dans l'entreprise précédente, l'entreprise familiale, quelque part, tu avais un peu hérité d'une situation, tu avais ce truc de légitimité qui était, est-ce que vraiment je le mérite? Est-ce que je suis pas là juste parce que je suis la sœur ou la fille, etc. etc. Mm. Du coup, tu arrives dans un nouvel environnement où tu as pu tout ce background autour de toi, etc. Mm. Et donc, ça va être le vrai test, finalement. Tu n'as pas eu de doute par rapport à tes capacités. Tu t'es jamais dit...
Mais... tu sais, j'ai une force, clairement, c'est que je me dis, il y aura toujours une solution, quoi. Enfin, je veux dire, si je me plante, je dis souvent, je sais pas, de toute façon, il faudra bien que je paye mes factures, donc je trouverai bien un job. Enfin, tu vois, ouais. je me dis, tu vois, je. Donc, faut bien se lancer, tu sais. Si tu risques pas de perdre quelque chose, tu risques pas de gagner non plus, hein. C'est, voilà. Donc, c'était une bonne entreprise. Je savais que je partais dans un groupe solide. Voilà, j'avais quand même des échos. Je me suis renseignée. Enfin, voilà. Après, bon. Quand tu fais des choix, hein, tu fais des choix. Après, tu les assumes. Mais j'ai fait un bon choix. J'ai fait un bon choix. J'ai beaucoup appris, vraiment. Et on a été racheté par une coopérative en 2016. Mmh. Et mon ancien patron, qui était actionnaire minoritaire, mais actionnaire, et bon, voilà, il y a une partie des actionnaires qui est partie. Il y en a qu'un qui est resté. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris la direction. De la filiale directement. Hein. Là, j'avais la responsabilité de la filiale dans tout ce qui était en tout cas animation des équipes commerciales. Et voilà. Après, on était géré par une coop, donc tout le back office était géré par le siège. Mais en tout cas, la direction opérationnelle, c'est moi qui l'avais.
Ok. Donc nouveau challenge.
Nouveau challenge. Bon. Pas vraiment en fait, parce que c'est déjà ce que je faisais. Mon ancien patron, il avait. J'étais au fond de la mine et je poussais les wagonnets, donc il était tranquille. Et puis il était aussi proche de la retraite, donc voilà, il m'a beaucoup transmis aussi, hein. Il m'a transmis des réseaux, il m'a transmis un nouveau métier, une nouvelle approche, voilà. Et donc le rachat, comme malheureusement beaucoup de groupes, hein, on a été racheté par une coopérative qui était une grosse coop, la 10e ou 11e coop à l'époque de France. Aujourd'hui, je sais plus trop où elle en est, mais comme beaucoup de PME, hein, pour acheter des grosses PME comme ça, il faut de l'argent. Et donc, forcément, c'est soit des fonds, soit des coopératives qui rachètent ce genre d'entreprise, en tout cas dans l'agroalimentaire. Mmh. Et voilà. Donc, on a été, comment je pourrais dire, mis face à une autre dimension de l'entreprise. Okay. Et là, il y a plein de choses super, mais c'est pas en tout cas mon mode de fonctionnement à moi.
Ok.
Et même si j'ai pas eu franchement à me plaindre directement, parce que j'avais beaucoup d'autonomie, j'étais vraiment en responsabilité de mon périmètre qui ne correspondait en rien au périmètre des autres. Moi, j'étais toujours un peu à part. J'avais vraiment un métier très spécifique. Tous les autres métiers étaient vraiment liés à la viande. Moi, j'avais vraiment un pôle tout agro, très différent. Okay. Et qui faisait quand même... On est monté quand même à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on avait quand même une puissance de frappe importante. Hein. Voilà. Ça a gagné beaucoup. Ça a perdu parce que des appels d'offres, voilà. Mais en tout cas... Le fonctionnement de la coopérative, étant donné que moi j'avais un métier complètement en dehors de leur périmètre aussi, j'ai pas été tellement impactée moi directement dans mon métier. C'était beaucoup plus difficile pour mes collègues groupes au niveau des back office, de tout ce qui est centralisable, informatique, la compta, la RH, voilà. Voilà, les métiers supports avec un fonctionnement en silo qui dénature et déshumanise complètement. Voilà, les gens. En fait, les collaborateurs, ils savent plus trop qui est leur patron, si c'est le siège ou si c'est le patron de BU. Enfin, voilà. Donc il y a une espèce de perte d'authenticité, enfin de sens, tout bêtement, en fait,
d'appartenance en fait.
Oui, c'est ça. L'appartenance à soi-même, mais même à qui tu rends des comptes, t'as des décisions qui sont prises mais qui sont pas applicables. Nous Rungis, on est un petit peu un village gaulois, hein. On a des codes très spécifiques, on a des horaires de nuit, on a des métiers compliqués, et du coup forcément si c'est pas accompagné tout ça, donc il y a eu beaucoup de casses, beaucoup de fractures, voilà. Et donc, alors, oui, T'as peut-être une question? Non. Parce que là, je suis partie. On a mis un sou dans la machine. Moi, je m'arrête.
Non, non, mais en fait, c'est quand même ce qui s'est passé, c'est que t'as quitté.
Ouais. Cette ouais. boîte-là. Ouais. C'est marrant. J'ai quitté. Ouais. J'ai quitté parce que, j'avais pris la direction de la filiale. J'avais construit l'équipe, j'avais bien, enfin voilà, et j'avais envie de faire autre chose. Okay. Donc j'avais été aller voir mon PDG en lui disant, écoutez, je le vous voyais, j'ai voilà, moi je veux bien garder la supervision, je veux bien garder cette activité là, mais j'ai envie d'avoir un voilà. Et j'ai OK, on va être acheté par la COP, mais du coup, on va faire quoi? On devient quoi? Enfin, voilà, moi, j'avais envie de participer au challenge, quoi. J'étais la seule femme patronne de filiale. Je trouvais que, en plus dans des métiers de viande, enfin voilà, je trouvais que c'était plutôt challengeant. Après avoir fait 22 ans de marée, donc où il n'y a pas beaucoup de femmes non plus, je me trouvais, on avait un projet. En plus, il avait trouvé un successeur pour la partie. Direction générale. Enfin bon, et donc voilà. Et mais en gros. De façon très gentille et très paternaliste, hein. En gros, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit, mais Karine, mais vous êtes bien là, ce que vous faites, c'est super ce que vous faites. J'ai dit, ouais, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien faire autre chose, vous voyez. J'aimerais bien avoir un peu plus de, voilà. Et puis, maintenant, t'es dans ton activité, t'y vas, tu commences et tout, machin. Et puis, un jour, avec ma collègue qui, elle, était groupe, mais qui s'occupait avec moi de tous les appels d'offres, donc toute la partie qualité, administratif, de la construction des appels d'offres. Et donc, on travaillait un soir, il devait être 21h, où on avait des grosses échéances. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être seule. Parce que une activité qui dépendait pas des autres, parce que je suis responsable, autonome, je gère mon truc, ma filiale comme si c'était la mienne, donc tout le monde dormait bien, mais moi, j'étais plus. Et à côté de ça, je voyais aussi mes collègues souffrir hein, de cette restructuration, de cette perte de, on leur enlevait des tâches. C'était en même temps moi qui perdais ce qui me faisait triper le matin, et en même temps je voyais la dégradation. Et on n'avait pas de vision, on n'avait pas de vraiment.
On a l'impression que toi, à ton niveau, t'es autonome, mais en fait t'es pas intégré. T'es dans un système où,
exactement.
Continuer à faire la même chose, ça ne nuit pas, mais est-ce que ça apporte quelque chose? À quoi je sers?
En tout cas, oui. En chiffres, mais.
Tu côtoies des gens, oui, en termes économiques, mais après, y a pas que ça.
C'est ça.
Et après, à côté de toi, t'as des gens qui vivent pas forcément bien le nouveau fonctionnement et qui comprennent pas. C'est l'impression qu'on a, en fait.
C'est ça, en fait. Et du coup, un soir, on s'est dit, et puis en plus aussi, les appels d'offres, ils changeaient, on répondait à des appels d'offres pour les plus démunis, donc c'est vraiment très spécifique. Et les États, ils veulent vraiment avoir les industriels en direct, ils voulaient plus de soumissionnaires. C'était beaucoup de risques. Et nous, on se disait, mais c'est pas à nous de prendre les risques, c'est aux industriels de prendre les risques. Par contre, on peut peut-être les accompagner, on peut peut-être machin. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à ébaucher notre projet, nanana. Et puis un jour, on a dit, bon, allez, banco, on y va. Et on a mis 6 mois à monter notre projet, hein. On faisait nos réunions champêtres, on allait marcher en forêt, tout ça, hein.
Et c'est avec quelqu'un de la boîte, hein, c'est ça.
Alors, c'est avec une collègue qui était donc, à l'époque, groupe, elle, DRH, directrice qualité et administrative du groupe, et elle pilotait, en fait, le back-office de toutes les filiales qui constituaient le groupe auquel j'appartenais. D'accord. Et ce groupe-là a été acheté par la coopérative. D'accord. Voilà. Et donc, elle était vraiment, la partie back-office, quoi. Hein, métier support, tous les métiers support. Et moi, plutôt développement, commerce, logistique, enfin, tout ce qui est plutôt l'opérationnel.
Et donc, vous décidez de quitter?
On décide de quitter. Voilà. Donc, on...
Pour
comment?
Pour créer,
exactement. Pour créer une structure qu'on a créée en 2021, en décembre 2021, Mais on a quitté notre emploi en janvier 2022. Voilà, on a demandé un accompagnement, enfin une rupture conventionnelle. Mmh. Et donc, on a... moi, évidemment, comme j'avais un métier très particulier, on m'a demandé quand même, mais pourquoi tu t'en vas, ton salaire, ton bonus. J'ai dit non, mais c'est pas ça. J'ai pas parlé d'argent en fait. Hein. Moi, ce que je veux, c'est une vision. Hein. Voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et on m'a dit aussi, mais Karine, attends, il y a un nouveau directeur qui arrive, tout ça, tu vas voir et tout. J'ai dit mais ouais, mais en fait, ce qui me gêne, c'est que individuellement, les gens sont tous très sympas. Moi, j'ai pas de sujet avec ça. Ouais. Sauf que le fonctionnement fait que les collaborateurs n'existent pas, en fait. Ils viennent, si tu les croises dans les couloirs, bah, éventuellement, on va te dire bonjour, mais sinon, il n'y a pas de, t'as un matricule, quoi. T'as même plus un nom, t'as un matricule. C'est terrible. Enfin, ça m'a vraiment profondément meurtri, quoi. Et du coup, j'ai dit très clairement, je dis, mais je n'ai pas envie de travailler dans ces conditions. C'est pas possible. Ça heurte trop mes valeurs. Moi, je suis incapable de me lever le matin pour bosser dur. Enfin, ça, c'est pas possible. Mais encore une fois, c'est pas contre les gens ou contre, voilà, c'est un système, hein. C'est une organisation qui est comme ça. C'est lié à quasiment beaucoup d'entreprises sont comme ça, malheureusement, mais.
Ouais, en même temps, les systèmes sont faits par des hommes et alors parce que t'as des très grosses structures où les gens ont pas l'impression d'être des matricules.
Bien sûr.
Et alors ça dépend peut-être de l'industrie dans laquelle tu es, ça dépend peut-être de la culture, ça dépend peut-être de plein de choses comme ça. Mais voilà. Bon, bref.
Ça mais là, ben en tout cas voilà, nous ça nous revenait plus. On a négocié notre départ. Moi j'ai proposé à parce que pour tout te dire, quand je suis partie, enfin quand on est parti, à nous deux, on représentait quand même pas mal de postes dans l'entreprise. Ouais. Et moi, j'avais quand même des collaborateurs. Donc les collaborateurs, j'étais pas tellement inquiet. Eux, ils allaient être réintégrés dans le groupe. Hein, ça, c'était pas le sujet. Ils étaient hyper performants, très bien, comment je peux dire, structurés. Enfin, c'était super. Mais du coup, ils ont fermé la filiale. Ils ont décidé de pas continuer. Bah oui, parce qu'il aurait fallu aller prendre un acheteur, un commercial, un contrôleur de gestion, j'en sais rien, mais en tout cas, la qualité.
Tu cumulais plein de postes, en fait.
Finalement. Bien sûr.
Et le fait qu'il l'ait fermé, ça veut peut-être aussi dire que, de toute façon, la filiale était pas dans leur vision, parce que juste avant, c'était...
Elle était pas stratégique. Ouais. Non, elle était pas stratégique, elle était,
Elle était là.
Elle était là, elle était irritée dans leur schéma et voilà. Donc nous on leur a proposé de les accompagner jusqu'à la fin des contrats parce que il y avait encore de l'exécution, hein, les appels d'offres, il y a quand même beaucoup d'inertie. Mmh. Donc voilà, on continue encore. D'ailleurs, on a encore 2-3 petites missions là à finir.
Ah oui, ok. Donc voilà. Vous êtes positionné en prestataire de la boîte.
Bah, on pouvait pas. Je peux pas ne pas assumer mes responsabilités. Partir, c'est bien, mais il faut quand même, ils y connaissent rien. Enfin, je veux dire, tu peux pas laisser les gens comme ça. Enfin, moi, je sais pas faire ça. Donc, on a été, mais c'est un contrat, hein, de prestation, commerciale. Et voilà. Au début, on a beaucoup œuvré. On avait du temps. Mais après, voilà, on a suivi notre bonhomme de chemin et donc.
C'est que tu passes donc là, après être passé de la vie de salarié dans une entreprise familiale, d'une famille dont tu fais partie, après avoir été salarié dans une entreprise qui est pas celle de ta famille, là, carrément, tu deviens entrepreneur.
Oui.
Entrepreneuse, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce que ça change, en fait ? Qu'est-ce que ça change de passer d'une position de salarié à une position d'entrepreneur ?
Alors, professionnellement, en tout cas dans la production du travail, pour moi, rien. Parce que, comme je te disais, mon implication a toujours été la même, que je sois salarié, actionnaire, non actionnaire, salarié lambda. J'y suis ou j'y suis pas, mais je sais pas être en dilettante ou être pas engagée à fond. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis tout autant engagée que je ne l'étais quand j'étais salariée. Voilà. Ce qui change, fondamentalement, par contre, c'est que le message, les valeurs, ce que l'on met dans l'entreprise nous correspond. Et ça, voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance, même en étant salarié, de pouvoir mettre en place mes valeurs. Et d'ailleurs, j'ai failli quitter l'entreprise avant de partir en rupture conventionnelle parce qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours dit, voilà, ça, je fais, ça, je fais pas.
D'accord. Voilà, tu peux donner un exemple ou c'est trop...
Bah, par exemple... qu'on te missionne sur quelque chose et que par derrière on l'a fait à l'envers, ou alors on parle mal aux gens,
okay.
Par exemple, ou alors voilà, ça c'est des choses qui moi me c'est pas possible quoi. Ah ouais, c'est fondamental. Voilà, et c'est aussi le comportement vis-à-vis des gens. Enfin, je veux dire, que ce soit un PDG ou un homme de ménage ou un, ça, moi, un coupeur de viande, un vendeur, un cariste, un comptable, peu importe. Enfin, c'est quelqu'un le matin, il se lève comme tout le monde, il est tout nu. Enfin, je veux dire, faut arrêter de mettre les gens à des niveaux. Voilà. C'est clair. Moi, c'est simple. Donc, tu peux pas avoir des comportements qui ne sont pas adéquats vis-à-vis du statut ou vis-à-vis de non.
Donc, si je comprends bien, le gros changement, c'est ça. C'est que finalement, tu vas pouvoir, sur des aspects finalement qui sont plus des aspects de valeur, vraiment avoir un impact sur le management. C'est-à-dire, chez nous, c'est comme ça qu'on traite les gens.
Exactement. Et c'est comme ça qu'on traite les gens, mais tous les gens. Hein, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs. Enfin, voilà. Moi, les gens déviants, ben non, pas grave. Il y a d'autres business, il y a d'autres clients, il y a d'autres fournisseurs, il y a d'autres... voilà.
D'accord. Alors, ça va m'intéresser de connaître la taille de ton entreprise juste après. Avant, ouais. Juste pour revenir un peu sur ton parcours, il y a une question moi, que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des rencontres dans ton parcours, quand tu regardes ton parcours, qui t'ont fait changer ? C'est-à-dire, tu vois, bon, bah, aujourd'hui, à ton âge... t'es encore très très jeune, mais je veux dire, t'as quand même accumulé une expérience, des rencontres, puis t'as évolué dans ta façon de penser. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes ou des choses qui t'ont fait évoluer vers ça, vers ce truc ouais. Parce que moi, ce que j'ai entendu dans tes valeurs, on travaille beaucoup quand même. Il faut une vision, c'est-à-dire il faut qu'on soit autour d'un projet qui nous excite tous.
L'anime.
J'ai entendu aussi le respect des personnes qui ne se limitent pas aux collaborateurs, mais aussi des fournisseurs, des clients, etc. Ouais. Tout ça, ça a dû se construire. C'est en faisant des rencontres ou en ayant des expériences que tu l'as construit. Ouais. Au niveau des personnes.
Alors, les personnes... déjà, mon frère, malgré nos divergences parfois, ouais. m'a beaucoup appris sur la nature humaine, sur j'ai des phrases comme ça, l'oisiveté, la reine des vices, la performance, il dit ça c'est très français, hein, ça c'est mon frère, il disait toujours ça c'est très français, alors on fait 98% du boulot, hein, et les 2% qui restent, on foire tout, enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui me marquent, qui me parlent encore, vraiment. Il y a ce premier patron qui m'a donné ma chance, voilà, qui m'a vraiment permis de sortir de ça, de du giron familial, de cette zone, voilà, qui m'a permis en tout cas de créer ma propre légitimité en termes professionnels. Après, j'ai ma coach que j'ai rencontrée au moment de mon bilan de compétences en 2011. D'accord. Qui m'a, je vais pas dire sauvée, mais presque. J'ai une bonne pensée pour elle parce qu'elle est décédée, malheureusement. Ah, okay. Mais c'était quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi.
Et elle a continué à t'accompagner.
Oui. J'ai fait, dès que j'ai entamé mon nouveau boulot, j'ai fait des formations de management, bien sûr. Moi, je suis très instinctive, hein, je suis une influente stable. D'accord. Ah bon? Et mon associé est une dominante consciencieuse, vois-tu? On est complètement à l'opposé l'une de l'autre.
Ouais. Ça, c'est plutôt bien, si vous vous entendez. En fait, ça veut dire que vous avez des modes de fonctionnement différents et que parfois ça peut quand même frotter.
Oui.
Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez d'accord sur les valeurs. Parce que finalement.
C'est exactement.
En fait,
c'est exactement ça.
La confrontation, elle est super productive, à condition qu'elle ne tourne pas en conflit. Et souvent, on passe au mode conflit parce qu'on n'est pas d'accord sur les valeurs.
Mais on mais là, non. Nous, on a exactement. Nous, on a construit. Exactement. Et nous, on a construit notre business, notre association là-dessus. Bien sûr, on est tellement différentes. Mais donc voilà, donc ma coach, elle m'a accompagnée, oui. Oui, oui, elle m'a accompagnée, elle m'a fait comprendre que j'étais sur la bonne voie, que j'avais, ouais, j'avais des choses à faire, j'avais, voilà. Et puis en parallèle aussi, alors c'est pas dans le business, mais quand même, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup aidée en termes de, voilà, de confiance en soi, de travailler sur soi. Voilà, ça fait depuis 2011 vraiment que je fais un travail sur moi important.
Et donc, chez moi, on est. C'était une coach, pas que business. C'était une coach de
vie. Non, bah, je pense qu'à partir du moment où tu commences à mettre le nez un peu dans le développement personnel et dans vraiment prendre conscience que tu es issu de transgénérationnel, tu es issu d'une éducation, d'un monde patriarcal, d'hommes, de machin. Non, mais c'est ça en fait. Et c'est te faire confiance, puis surtout quand t'es une femme, c'est d'autant plus difficile. Alors, je veux pas faire du féminisme à deux balles, j'aime pas ça, mais voilà, on vient de loin, quoi. On vient de loin. Moi, j'ai trois garçons et c'est génial et je vois comment, voilà, comment les choses évoluent et c'est top, quoi.
C'est, et alors, quand ta coach, a quitté, tu as rencontré quelqu'un? Ou aujourd'hui.
Je suis toujours accompagnée, ouais. J'ai fait la formation de Jenny Chamas, que tu as invité d'ailleurs, je crois, de Leader Ambitieuse, qui m'a beaucoup apporté aussi, sur justement ce.
Interview, je suis venue plusieurs fois chez elle. Et
ouais. Ouais, cette approche-là hein, du coaching de vie est géniale. Et en parallèle aussi, je suis aussi, sur Clotilde Dussoulier, c'est pareil, c'est aussi une façon d'appréhender les choses, de s'autoriser en fait hein, à être soi-même. Alors moi j'avais beaucoup de tout ça parce que j'étais assez, je suis assez instinctive encore une fois, je faisais beaucoup de choses naturellement, mais mon éducation quand même dans la dure ne m'autorisait pas beaucoup à écouter tout ça, ma petite voix, tout ça. J'ai fait une formation en énéagramme aussi. M'a beaucoup appris sur la personnalité des gens, comme le disque un peu, hein, mais voilà. J'ai compris que j'étais en colère, tu vois, j'ai calmé ma colère, j'ai fait pas mal de choses, ça m'a beaucoup adouci. Et je me suis dit, voilà, c'est pas parce que je suis une femme, chez nous, être gentil, c'était un peu moche, comme, tu vois, t'es gentil, c'est un peu nul, quoi. Et en fait, non, c'est génial d'être gentil. Mais par contre, faut pas être complaisant. La bienveillance et la gentillesse, c'est génial.
Ouais. Exigeant.
Oui. Ah bah oui, performant, exigeant, mais gentil.
Ça m'intéresse. Alors, donc aujourd'hui, la boîte que tu as créée avec ton associé, est-ce que tu peux la présenter, qu'on voit à peu près de quoi il s'agit, du périmètre, de ce qu'elle fait, et puis un peu, moi ça m'intéresse de savoir en termes de management, combien tu as de personnes, etc.
Donc on a démarré toutes les deux hein, avec Annie. Donc la société s'appelle Cap&Co. Cap and Co, K-A pour Karine, A-P pour Annie, Pedrona, voilà, Enco, au début, il n'y en avait pas, mais bon, voilà. Okay. Et donc, on s'était dit, bon, voilà, on va faire de l'accompagnement, on va proposer aux industriels qui veulent, s'ils veulent répondre directement aux appels d'offres, nous, on peut leur proposer une boîte à outils, on sait faire, donc voilà. Après, j'avais quand même moi aussi mon activité de négoce, donc j'avais quand même des clients réguliers que j'avais pas développé parce que j'avais jamais eu le temps, mais voilà. Et puis en parallèle de ça, quand même, on trouvait qu'on avait un binôme quand même sympa, justement ces deux visions un peu de l'entreprise et surtout une force de pratico-pratique sur pas mal de sujets. Et donc on a décidé aussi d'accompagner les entreprises de notre écosystème hein, de Rungis justement sur le management, la qualité, le RH, on fait aussi des on les accompagne dans justement des changements qui doivent opérer, voilà, les changements de génération, la place des femmes dans l'entreprise, être une femme, mais être aussi dans des métiers plutôt considérés comme masculins, mais voilà. Et donc, voilà, on a démarré comme ça. On s'était fait un business plan, on avait dit, allez, ouais, on estime faire 1,5 million la première année, 2 millions, et en fait, on a cartonné. Ouais. Tous nos clients industriels nous ont suivis dès la première année. Donc, tout de suite, on a... Alors, moi, j'ai effectivement, comme l'entreprise était... l'ancienne entreprise allait fermer, j'ai proposé à une de mes collaboratrices j'en avais deux collaboratrices de venir. Mm-hmm. Il y en a une qui est venue, l'autre n'est pas venue. Faut dire aussi qu'on a ouvert en plein au tout début de la guerre en Ukraine. Bon, moi je fais quand même de l'alimentaire, hein, donc entre l'huile, la farine et autres problèmes, voilà, ça a été un peu chaud. Mais bon. Pour autant, voilà, donc on a accompagné un grand nombre d'industriels qui ont quasiment tous gagné leurs appels d'offres. Donc, il a fallu faire l'exécution et tout. Donc,
dès la première année.
Dès la première année, voilà, le négoce tourne aussi. J'ai eu la chance aussi d'avoir un client qui, on avait à peine fait notre cabis, qui me dit, écoute, j'ai un budget à dépenser. Est-ce que tu peux me trouver ça? Je dis, oui. Et j'ai trouvé, et il nous a fait un énorme chèque dès le premier mois, que le cabis avait 10 jours, et il m'a fait une confiance dingue. Du coup, voilà, c'est aussi les coups de pouce de la vie, quoi. Parce que j'imagine aussi parce que la confiance, l'engagement, encore une fois, hein, et donc voilà. Et puis ensuite, on a eu une collaboratrice la première année qui est arrivée en juillet. Donc, on a fait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. Et puis, plutôt pas mal. Et la deuxième année, c'est pareil, on a, nos clients ont cartonné. Donc, ça, c'est vraiment de la prestation. En parallèle de ça, nous, on a répondu à des petits appels d'offres. On a gagné 70% des lots. Donc voilà, donc on a pris une apprentie. La première année, on avait déjà pris une apprentie. Et là, le négoce et tout machin. Donc on a pris quelqu'un en CDD en milieu d'année l'année dernière, qu'on a confirmé en CDI là au mois de janvier. Et on a fait 10 millions d'euros l'année dernière de chiffre d'affaires. Donc on a cartonné. Voilà. Donc là, on a un autre poste en CDD qui est super, que j'espère on va pouvoir garder en fonction des résultats de nos appels d'offres là auxquels on va répondre. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une associée structurante. Donc pour accompagner une croissance comme ça, évidemment.
C'est ce que j'allais dire. C'est top. Vaut mieux ça. Peut-être plus des problèmes de riches que de pauvres, mais oui.
C'est ça.
Et alors, t'es, c'est une forme.
Mais quand même, tu peux te cramer aussi facilement, hein, parce
que. La question, c'est que tu peux te cramer. Mmh. Est-ce que ça demande des besoins en trésor énormes? J'ai pas l'impression, parce que c'est de la presta.
Non, il y a beaucoup de. Non, il y a pas que de la. Sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, t'as quand même au moins 9 millions de négoces, hein. Donc c'est de l'achat de la marchandise, hein.
Tu stockes?
Non, je ne stocke pas.
Donc c'est l'écart achat-vente.
Hein. Ouais, exactement.
Et puis, puis le risque, c'est que, après, faut le maintenir, le chiffre.
Nous, on s'est constitué, en tout cas. Tu sais, on est des femmes entrepreneurs, hein, donc on n'a pas les mêmes ambitions. Nous, notre ambition, elle est claire, hein. Notre ambition, elle est effectivement, si l'entreprise gagne, tout le monde gagne, hein, d'abord. Ensuite, les super années, c'est super. Mais par contre, on a une maîtrise de la masse salariale. Nous-mêmes, on a un salaire, de dirigeant, de direction, et après, on a dimensionné aujourd'hui l'entreprise de façon à ce que, selon notre business plan initial, on puisse vivre avec la moitié du chiffre d'affaires. Enfin, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu des budgets exceptionnels, on a eu une année quand même, voilà. Cette année, on prend le même chemin, mais parce qu'on a gagné des choses l'année dernière qui vont être exécutées cette année. Après, voilà. J'en sais rien. En tout cas, nous, on travaille pas en se disant, bon, bah voilà, l'année prochaine, on va faire 20 millions. J'en sais rien. C'est, on s'en fout, en fait. C'est pas le sujet.
Non, tu dis, non, mais nous, on est des femmes. Nous, on fait comme ça parce que, que les hommes, eux, ils veulent.
Non, je fais une généralité. C'est pas bien. C'est pas bien de faire des généralités, mais en tout cas, c'est pas le toujours plus. Il y a ça que voilà, qui nous caractérise pas. Et aussi, cette ambition, elle est collective. Enfin, je sais pas comment dire. On a envie d'y arriver ensemble. On a envie d'apporter un truc différent, quoi. Ouais. Différent.
Et c'est marrant ce que tu dis. Ce midi, j'ai eu une conversation avec ma sœur qui me disait qu'elle avait rencontré un entrepreneur qui lui avait expliqué qu'il appliquait à ses entreprises le principe de satiété qui existe dans la nature. C'est-à-dire que, et j'ai trouvé ça intéressant, il disait, il n'y a pas d'animaux obèses. Un animal, quand il a assez mangé, il arrête de manger. Et il dit, moi, mes entreprises, c'est pareil. Mais parce que c'est une assez grosse boîte. Mais il dit, pour moi, je vise pas qu'elle devienne la plus grosse possible. J'ai quand même modélisé le truc en disant, à ce niveau-là, la boîte se porte bien.
C'est ça.
Vous pouvez faire plus. Mais voilà. Et je trouvais l'approche assez marrante. C'est une approche
qu'on
n'entend jamais.
C'est vrai. Mais nous, ce qu'on se dit aussi, c'est que, bon, là, on démarrait, on n'avait pas vraiment de visibilité sur, on avait un sentiment que, bah, il y avait un besoin quand même. Voilà. Et puis, on est aussi très impliqués dans ce qu'on fait. Les gens, ils aiment bien travailler avec nous. C'est aussi ça. Moi, j'ai des clients, ils appellent, ils sont hyper contents, ils disent vraiment, ton équipe, elle est top, ce que vous faites, c'est dingue. C'est génial. Et c'est ça qui nous porte, en fait. Et nous, c'est ça qu'on a envie. Moi, c'est pas de vendre, je m'en fous de vendre. Ouais.
En fait, la vente, ça n'est pas le, c'est la conséquence.
Mais oui, c'est génial.
Mais c'est vrai que quand t'as un business.
J'ai des clients, ils m'appellent et ils me disent, mais Karine, tu peux pas me trouver ça, des réchauds, des... j'appelle, je dis, tu connais pas quelqu'un qui vend ça? Voilà, j'ai acheté des réchauds, j'ai acheté des mitaines, j'ai acheté des bonnets, j'ai acheté des... Parce que...
Mais tu vois, je suis d'accord. Il y a un moment dans ton business, enfin moi, ça m'est arrivé dans mes business où en fait, tu cherches plus à vendre, tu cherches plus à satisfaire les besoins internes, externes, etc. Et c'est à ce moment-là que tu te mets à vendre beaucoup. C'est assez drôle. En fait, ce que tu...
Peut-être, ouais, c'est vrai.
Comme objectif, finalement, ça devient une conséquence de ce que tu as mis en place. Mais alors, du coup, alors moi, j'ai deux questions.
Oui.
La première question, c'est, vous êtes que des femmes dans ta boîte?
Alors, oui.
C'est pas bien.
On a essayé de prendre un garçon. Oui, la parité n'est pas là. On a essayé de prendre un garçon qui est venu en commerce.
Ouais.
Mais ça allait trop vite pour lui. Alors c'était probablement pas le bon candidat. C'était un artiste. Non, mais je plaisante évidemment. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses très vite. On passe du coq à l'âne en permanence. C'est vraiment une ruche très voilà. On a jusqu'à aujourd'hui ouvert que des postes administratifs. On n'a pas eu de candidat garçon. D'accord. Voilà. J'ai un freelance qui était un de mes anciens collaborateurs dans mon ancienne entreprise, qui était mon responsable logistique. Ouais. Je lui ai dit, nous on part, mais toi t'es proche de la retraite. Moi j'aimerais bien que tu vas te faire chier à la retraite en fait. Si tu aides une jeune entreprise à démarrer, comme ça t'as un petit job machin, monte ton auto-entreprise, comme ça tu m'accompagnes sur les missions logistiques, tu continues, voilà, ça te fait un complément de revenu, enfin tout bénef quoi. Et du coup on a un garçon en freelance. Oui, c'est le plus âgé de la troupe. Ouais, il a 62, 63 ans.
D'accord.
Et il est en retraite progressive, là, mais voilà. Et c'est un puits sans fond de connaissances, de voilà. Et là, on lui demande de transmettre. D'ailleurs, on lui demande de faire des formations aux jeunes chez nous pour transmettre. C'est, parce que c'est catastrophique, tous les anciens, là, qui partent avec leur savoir, professionnel, mais de humain, voilà, cette expérience, cette... Et moi, enfin, voilà. Donc, plus longtemps il reste à nous accompagner, mieux c'est. Au-delà du travail que, voilà,
Mais
c'est
alors,
top.
Du coup, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que ce qui t'a fait partir de ton ancienne boîte, et créer ta boîte, t'as dit c'est un peu que j'étais pas intégré dans la vision et qu'il y avait un manque de vision de toute façon.
Oui.
Et là, je comprends ce que tu dis, je comprends l'enthousiasme et tout ça, mais en même temps, pour moi, la vision, elle est pas claire.
Tu vois, nous, la vision, c'est d'être utile.
Mais non, mais Karine, c'est quoi votre vision à 3 ans? Qu'est-ce que vous voulez changer sur votre marché? C'est comment vous allez changer le monde, machin bidule?
Ah non, mais moi, j'ai pas.
La question, alors je vais te dire pourquoi ça m'intéresse.
Vas-y.
Moi, cette question-là, quand on me la pose en tant que chef d'entreprise, elle m'ennuie, cette question.
Moi,
on m'oblige à dire quelque chose qu'en fait, je ne sais pas. Et j'ai pas envie de mentir à mes salariés en disant, bah, dans 5 ans, ça va être comme ça, parce que c'est pas vrai. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans.
C'est vrai.
Ça m'intéresse.
Oui, mais
moi je me suis fait une réponse, mais c'est peut-être pas la même que la
tienne. Mais moi je partage avec toi. Moi, tu sais, c'est comme quand on me demandait les budgets, j'ai dit, on sait rien moi ce que je vais faire l'année prochaine. Enfin, tu vois, on verra quoi. Enfin, et quand tu fais 50 millions, on te dit bon, l'année prochaine c'est 60. J'ai dit ben non, l'année prochaine ça va être 25. J'ai dit parce que je sais pas ce qu'on va gagner aux appels d'offres, donc on se détend. Voilà. Mais la vision, moi, c'est surtout le fuel qu'on met dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on veut comme émotion, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'on génère comme émotion pour y aller, quoi. Et en fait, c'est ça le sujet. Moi, la vision de l'entreprise demain, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous, ce qui nous fait nous lever, c'est l'utilité qu'on a à notre écosystème. Que ce soit en négoce pour trouver des solutions, soit pour les uns en sortie, soit pour les autres en achat, trouver des solutions pour nos clients industriels pour justement aussi les accompagner dans des choses, soit qu'ils savent faire mais qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a aussi un problème de ressources en entreprise, hein, humaines, de compétences aussi, parfois sur des trucs très précis. Tu vas pas embaucher quelqu'un, voilà, là en l'occurrence, nous on leur apporte non seulement la constitution du dossier, mais en plus l'accompagnement. On fait tout on va jusqu'à l'exécution. Eux ils produisent, on fait la planification, on fait la logistique, on fait tout ça.
Ah oui, oui.
Et ensuite aussi en accompagnement aux entreprises, c'est aussi ça, c'est transmettre justement cette envie de d'être utile. On a besoin des entreprises, le patron il a besoin de ses salariés, le salarié il a besoin de son patron. Et c'est ça en fait, c'est l'utilité que chacun a et que ce soit gagnant-gagnant. Parce que si c'est pas gagnant-gagnant, ça fonctionne pas. Ça marche une fois. Donc après voilà, moi c'est ça ma vision, c'est quel impact? Pourquoi on fait ça? Et nos collaboratrices, elles nous disent, nous, ce qu'on aime, c'est vous. Alors, on est très flattés, hein. Mais au-delà de ça, c'est, putain, on sait pourquoi on le fait, quoi. Voilà. Les gens sont reconnaissants, sont contents, sont.
En fait, et c'est un peu le truc auquel j'en suis arrivé, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas tant la vision de l'entreprise qui est importante, c'est la culture d'entreprise.
Oui, très clairement.
Et en fait, ça rejoint en plus une citation d'un pape du management qui s'appelle Peter Drucker, qui pourtant est un ancien, qui disait culture eats strategy for breakfast, c'est-à-dire la culture, elle mange la stratégie ou la vision au petit déjeuner. C'est-à-dire que même si t'as pas la bonne vision, t'as pas la bonne stratégie, si t'as la bonne culture, en fait, ton entreprise va fonctionner.
C'est l'agilité dont tu parles. Voilà. Tu sais, alors, nous, on est voilà, aussi.
Et il y a l'agilité, et je dirais même, et en fait, c'est l'antifragilité. C'est-à-dire se dire, ben, je dois rester à l'écoute en permanence de mon environnement que j'ai choisi. C'est-à-dire que mon environnement, c'est ça. Là, je vois ce qui se passe dans cet environnement, et en fait, ce qu'il faut, c'est que mon entreprise, elle soit toujours en phase avec cet environnement.
Voilà.
Au-delà, le monde tel qu'il évolue, la crise en Ukraine, le machin, le bidule, j'ai pas prise. Donc,
c'est pas la main.
Je vais faire une vision à 5 ans. Je sais pas s'il va pas y avoir une guerre dans 3 ans. Enfin,
c'est ça.
Voilà. En fait, j'en sais rien, ça, et je vais pas inventer que je sais quelque chose. Donc, moi, mon champ d'action, c'est la culture de mon entreprise et mon environnement économique et comment je navigue à l'intérieur de ça.
Exactement, exactement. Et nous, on est complètement sur cet aspect-là de l'entreprise, voilà, de rester vigilante, opportuniste, mais dans le respect de nos valeurs. Et on fait pas de plan sur la comète.
Après, ce qui est moins, enfin, pour une entreprise où on est 3, 4, 5, c'est peut-être plus neuf que pour une entreprise où on est 5 000, quoi.
Ça, c'est sûr. Bon, évidemment.
Moi, je crois que ce qui est valable pour 5, c'est valable pour 5 000 si on met les bonnes personnes aux bons endroits. Et, voilà. Alors, comment on passe de 2 millions à 10 millions de chiffre d'affaires en un an? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la manière de travailler, de la structuration, etc., etc.? C'est quoi les leçons ou le témoignage
que vous en faites? L'avantage que j'ai, c'est que je suis très bien associée. C'est-à-dire que moi, je suis une développeuse, très clairement. J'ai la chance d'avoir un bon réseau, j'ai la chance d'avoir une confiance. La confiance, c'est une de nos valeurs fortes. Hein. Okay. J'ai la confiance de mes clients, de mes fournisseurs. Ils nous ont suivis. On a eu vraiment un engagement de nos partenaires. Dingue. On n'a pas eu besoin de financement, on a toujours acheté la marchandise, on n'a jamais eu besoin de financement, on a tout autofinancé, et on a, voilà, ce qui est quand même pas neutre. Et j'ai une associée qui est structurante. Donc dès le départ, même à deux déjà à deux, on avait le kit, en plus elle était DRH, donc le kit pour les nouveaux collaborateurs d'entrée, toute la structuration de l'entreprise a été faite dès le départ. Je suis convoquée en CODIR tous les mois. Et en fait, du coup, on a fonctionné dès le départ à deux, comme si on avait déjà une équipe, comme si on avait déjà. Et du coup, au fur et à mesure, quand on a commencé à prendre les collaborateurs, tout était déjà, les bases étaient posées, les choses étaient faites, il y avait, enfin, voilà. Et voilà. Après, on a une grande capacité de travail toutes les deux aussi, hein. Donc, on a beaucoup travaillé.
Ça, c'est
cool. On a embauché, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pris les choses comme elles venaient, quoi. Enfin, voilà, on a été proactive. On s'est dit, bon, on a regardé, on a vu les appels d'offres qu'on a gagnés, on s'est dit, bon, nous, il y a une inertie quand même aussi dans notre travail. Hein. Il y a le négoce qui est du gré à gré au quotidien, mais il y a quand même, dans les appels d'offres, il y a quand même une inertie. Entre le moment où tu déposes, le moment où tu as les réponses, et le moment où tu commences à exécuter, il y a quand même des mois. Donc, ça nous a permis de quand on a vu ce qu'on avait gagné, on dit, bon, OK, donc là, il va nous falloir quelqu'un. Ensuite, une de mes collaboratrices est venue et c'est une perle, hein, je peux pas dire le contraire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très. Ça fait 8 ans, 9 ans qu'elle travaille avec moi. Voilà. Donc, on était hyper contente qu'elle accepte de venir avec nous. Et puis voilà. On est resté nous-mêmes, on a tapé dans la butte, quoi, on a retroussé les manches et puis on a passé la vague, hein. On est fatigué évidemment, c'est pas grave.
Il y a trois trucs qui m'ont intéressé dans ce que tu as dit, c'est que je retrouve des thèmes que moi j'aborde en formation aux entrepreneurs. Le premier, c'est ce que j'appelle le système D+R, c'est-à-dire que les équipes qui marchent bien, c'est une équipe où t'as un développeur d'un côté ou une développeuse et quelqu'un qui fait de la rétention de l'autre côté. Quand je dis rétention, c'est garder les clients, s'occuper de la structure, etc. Ou t'as aussi le binôme visionnaire et réalisateur, tu vois. Et ça, on sent que dès le début, vous l'avez eu. Donc pour moi, tu vois, en fait, ça peut être un fondement d'entreprise et tu peux répliquer ça après quand t'embauches des gens pour faire des équipes.
Exactement.
Ou c'est des pairs comme ça qui fonctionnent. À condition qu'elles soient sur les mêmes valeurs, etc., etc. La deuxième chose qui m'intéresse, que je trouve super, c'est que ton associé, t'es obligé à faire des codir, parce qu'un des trucs que pour moi qui est important, même quand on est tout seul, c'est de se dire qu'on a trois casquettes, mais même quand on est tout seul. Une casquette stratège, c'est le moment où je réfléchis. Une casquette manager, alors tu me dis manager, mais si j'ai personne, je fais pas de management. Bah si, parce qu'un manager, il est aussi là pour structurer et optimiser, et évidemment une casquette contributeur. Ouais. Une fois que tu as fait ça, en fait, quand tu regardes ton agenda, que la charge monte et que tu t'en sors plus, bah tu regardes ton agenda comme un organigramme. Et tu te dis, bah tiens, là je faisais ça, je faisais... Parce que ce qui est pas dans un dans ton organigramme, il est dans ton agenda. Quand tu es tout seul, t'as pas d'organigramme, donc tu fais tout. Quand tu commences à recruter, bah il y a des choses qui partent de ton agenda et qui vont dans l'organigramme, c'est-à-dire les personnes que tu vas recruter. Mmh. C'est marrant, c'est que vous avez suivi ce process.
Et c'est fondamental, ouais, d'avoir quelqu'un de structurant comme ça. C'est ça. Pour une alors moi j'ai l'air comme ça, elle me dit mais si toi aussi t'es structuré, je dis d'accord, mais j'aime pas, moi je fais que des gribouillis, je suis très structuré dans ma tête, mais j'ai pas d'agenda par exemple. Je ne sais pas me servir d'un agenda. D'accord. Je ne sais pas, j'ai tout dans la tête tout le temps. Donc mais c'est pas bien, faut pas faire ça.
Non mais en fait, la leçon là c'est oui, c'est super d'avoir de l'énergie, d'avoir une entreprise qui fonctionne comme ça, etc. Mmh. Mais en fait, ça n'empêche pas d'être structuré. Et c'est même nécessaire.
C'est nécessaire. Et je vais même te dire mieux. Quand on s'est associé, on est associé à 50-50. J'ai deux parts de plus parce que c'est privilège de l'âge. Non, mais il faut aussi être... voilà. Mais on a parlé des salaires, des rémunérations. Et... comme je suis, entre guillemets, la développeuse, c'est moi qui fais le commerce, les clients, tout l'entretien des gens, tout ça, c'est moi. Et elle me dit, mais ouais, et déjà dans la société avant, j'y mets niette, quoi. Je dis, moi, sans un back-office, sans un métier support qui tient la route, je peux être la meilleure commerciale du monde. Mmh. Donc, c'est la même chose. Mmh. Voilà. On est à égalité. C'est normal, c'est fondamental. Et elle m'a dit, il y a peu de temps, parce que nous, on fait souvent nos réunions en forêt. On va marcher toutes les semaines avec nos chiens. Et on se parle pas pareil quand on est côte à côte que quand on est en face à face. On se dit beaucoup de choses. On a vraiment... Et du coup, elle m'a dit, j'ai mis du temps à comprendre à quel point je suis effectivement importante dans... l'entreprise. Et c'est génial, parce que c'est ça, en fait, un bon binôme. C'est, voilà, on a confiance, on partage les valeurs, on est toutes les deux des travailleuses, pas la même chose, pas de la même façon, mais voilà. Et ça, la structuration, c'est fondamental. Fondamental.
Et au niveau management, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que non, je comprends très bien que vous vous entendiez bien, que vous soyez en face, et c'est ultra important que la tête soit comme ça, parce que sinon, ça marche pas. Tiens, j'ai des ballons qui apparaissent. C'est quand je fais ça. Regarde.
C'est génial.
Ça marche qu'une fois, apparemment.
Qu'est-ce qu'on fait
que les deux hémisphères fonctionnent ensemble. Mais après, vous avez des salariés, vous pouvez pas forcément leur demander d'être travailleur comme vous, etc. Vous avez structuré, vous utilisez des outils de management ou pas? Parce que quand même.
Alors moi, j'utilise, parce que j'ai. Moi, j'ai la chance d'avoir découvert un podcast, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Outils du Manager, il y a quelques années. Alors moi, j'ai mis en place des one-to-one. Alors, je les fais pas toutes les semaines parce que j'en ai pas l'utilité, en fait, car... attends, excuse-moi. Pardon. J'en ai pas l'utilité, voilà, sinon ça va faire du bruit. Parce que j'ai une proximité déjà importante avec mes équipes. Bon, déjà, on travaille dans le même environnement, dans le même open space. On parle de tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Mais je le fais une fois par mois.
Ah oui.
Voilà. Ça, je le fais une fois par mois avec mes deux collaboratrices directes, une pour le négoce et une pour les appels d'offres. Okay. Et maintenant que ma collaboratrice qui m'a suivie, qui est donc en charge des appels d'offres maintenant, elle a deux collaboratrices maintenant. Elle a une apprentie. Et elle a une personne en CDD pour le moment, mais que je te disais qu'on espère bien garder. Et donc, elle, je la forme, je la coach un peu sur justement, on l'a mise en formation plusieurs fois pour le management, pour qu'elle puisse, voilà, elle grandir. Et donc, voilà, je l'incite à faire des one-to-one aussi avec ses collaborateurs. Ça, c'est important. On fait des points évidemment réguliers. On n'a pas de réunion ni chez nous. Hein. On fait une grosse réunion par mois, c'est tout. Après, on fait des points informels, on fait des groupes de travail.
Combien de temps votre grosse réunion?
Le temps qu'elle dure ?
Ouais, le temps qu'elle dure, ouais.
Une heure.
D'accord.
Une maximum.
Ok.
Maximum.
Ok.
Après, là, on est clairement en phase de délégation plus, hein. Ouais. Maintenant que l'entreprise a un peu plus de bouteilles, on commence à, voilà, à déléguer plus. Parce que nous, on a un projet, hein, clairement, hein, de, de faire plus d'accompagnement, parce que ça, ça nous anime vachement. Et on, voilà, on a des clients, ils nous disent, mais pff, c'est génial, ça a tout révolutionné chez nous. Enfin, voilà, on apporte un œil nouveau dans un environnement très sclérosé, en fait. Hein, donc, voilà. Mais donc, en management, ben, on fait deux fois par an, on ferme les bureaux. On fait voilà, on garde quand même un œil sur les boîtes mail et on répond au téléphone, on fait un transfert d'appel, mais deux fois par an on va faire un resto, qu'est-ce qu'on a, l'année dernière on a fait un karaoké, on a fait un balade énigme, on s'est baladé dans Paris à chercher des énigmes, enfin voilà, des trucs où on travaille pas, hein. Par contre il y a pas de réunion, de brainstorming, de machin, c'est que être ensemble, voilà, passer une journée. Cette année on va organiser un méga barbecue, on va faire les Olympiades de Cap & Co avec les conjoints, les enfants, on va faire un gros barbecue avec des jeux, enfin voilà, nos jeux olympiques à nous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre en termes de management, c'est
En fait, vous êtes, et ce que tu disais là juste avant, c'est que tu es en train de faire monter des gens en compétences,
ouais,
pour transmettre la partie comment je vais
plus
dire,
opérationnelle de notre
opérationnel business, ouais. Mais opérationnel pour pouvoir te dégager du temps et avec ton associé pouvoir intervenir pour
plus
propulser un petit peu ta manière de travailler en entreprise dans d'autres entreprises.
C'est un des trois métiers, hein, c'est trois activités qu'on avait mis en place mais qu'on n'a pas eu le temps encore aujourd'hui de développer ou de mettre en avant parce que voilà, alors on a fait Annie plus que moi parce qu'elle fait des missions plus techniques, hein, sur justement des de qualité de RSE, de RH également, mais on a fait deux missions sur du management et de l'accompagnement des équipes, des changements en fait. Parce que moi j'ai une de mes belles filles qui sort d'une école de management, c'est génial. Elle apprend des outils, des machins, tout ça, et je lui dis mais et du coup comment ça se passe en entreprise ? Mais en fait ils font des audits qui restent sur un coin, 80% des audits restent sur un coin du bureau, ouais. Sont pas mises en application en fait. Parce que c'est le changement, c'est l'accompagnement au changement. C'est comme ça qu'on évolue. C'est le passage à l'acte, obligatoirement. Parce qu'on peut tous faire des diagnostics, dire ce qui va pas, enfin c'est, voilà. Mais après, c'est comment on change. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change?
C'est comme en politique, c'est super facile de dénoncer.
C'est ça, c'est ça.
Mais si on en reste là, ouais.
Et mettre les équipes à contribution.
Ouais.
Mettre les équipes à contribution, alors, c'est fondamental.
Alors justement, parce que mettre les équipes à contribution, c'est un nom, c'est l'engagement. Hein.
Ouais.
Et on sent que pour toi, c'est important, etc. Comment... pourquoi c'est important dans une entreprise, déjà, de créer de l'engagement? Et comment, d'après toi, c'est quoi les clés pour créer une équipe engagée, en fait?
Déjà, c'est les accompagner. Ouais. Moi, je sais que c'est les féliciter,
la
reconnaissance. Vraiment, c'est fondamental. Moi, j'adore. Des fois, le vendredi, quand on a eu des semaines super dures et tout, j'envoie un petit WhatsApp, on a un groupe. Je dis vraiment, vraiment bravo, quoi. C'est top. C'est, enfin voilà. Il y a ça. Il y a le respect de leur vie privée aussi. Hein. Chez nous, il n'y a pas d'horaire à rallonge. Tout le monde fait 16 heures. Elles font 35 heures. On n'a pas de cadre non plus. Hein. On n'a que, pour l'instant, des employés et
apprentis.
Apprentis, employés et agents de maîtrise. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, si toutefois elles devaient dépasser de leurs heures, elles récupèrent leurs heures, évidemment. On a mis en place tout ce qu'on pouvait, hein, en termes d'intéressement. Je parle de la partie financière, hein, tout ce qui est intéressement péro, les mutuelles, les chèques cadeaux, enfin bref, voilà. On a une jeune maman avec nous, donc on l'accompagne sur la crèche d'entreprise. Voilà. Parce que c'est important aussi de pouvoir, en tant que maman, et moi je sais de quoi je parle, pour avoir eu trois enfants divorcés avec des jobs lourd. Voilà, toutes les femmes et les mamans n'ont pas forcément envie de rester à la maison, ont envie d'avoir une carrière, ont envie de travailler, ont envie de participer. Et voilà, et nous, voilà. Elles peuvent faire du télétravail si elles veulent, mais on n'a pas de candidate, sauf une qui a, voilà. C'est donc, bon, bah voilà, c'est qu'on doit être bien au bureau. Quoi d'autre?
Après, tu parlais des, t'as pas mal parlé des valeurs quand même.
Oui.
Sur la cohérence. Alors, ce serait quoi les valeurs?
Nos valeurs?
Ah ouais, un peu de les définir ou?
Ouais, bah. Non, elles sont non seulement définies, mais elles sont vécues et elles sont fondamentales. C'est on a quatre valeurs fondamentales. Ouais. C'est la confiance, l'éthique, la performance et le savoir-être. Voilà. Ça, c'est nos quatre valeurs. Éthique. Confiance, éthique, performance, savoir-être.
Alors moi, je vais te dire un truc. Ouais, mais la confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, c'est un mot tout le monde aime bien. Hein. Êtes-vous contre la confiance? Non.
Non, personne n'est contre. Bien sûr.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
La confiance, c'est la sécurité. La confiance, c'est une forme d'engagement aussi. Tu donnes. Alors, tu sais, il y a des gens. Moi, j'ai souvent dit ça à mes enfants et j'ai toujours dit à mes enfants, tu sais, il y a que le voleur qui croit qu'on va le voler, en fait. Il y a que les gens qui te mentent. Il y a que les gens qui te la font à l'envers, qui croient que tu vas leur faire à l'envers. Parce que si t'es normalement constitué, le matin, tu te lèves pas, pour faire des crasses aux gens. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma philosophie. Donc voilà, moi, a priori, je te fais toujours confiance. Ce qu'on me dit, je le crois. Parce que ce que je dis, je le pense. J'ai une forme de congruence importante. C'est fondamental, d'ailleurs. Mmh. C'est aussi ça qui fait l'engagement des gens. C'est que, voilà, quand on me dit quelque chose à moi, c'est à moi qu'on le dit. Mmh. Je vais pas le répéter. Les quatre accords Toltec, la base.
Alors,
ah ben oui, c'est la base. Bah, moi, c'est la base de, même en entreprise, que la parole soit impeccable. Mmh. Déjà. Si tu dis de la merde, excuse-moi, mais tu reçois, c'est moche, tu peux pas passer ta vie à critiquer, tu peux pas être tout le temps gna gna gna, c'est pas possible ça. Ça c'est du poison pour les gens et pour l'entreprise. Donc déjà, il y a pas de jacasserie quoi. Enfin ça c'est interdit. Et puis tu sais, il y a de la jacasserie quand il y a des gens disponibles pour écouter les jacasseries. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon quotidien, j'ai pas le temps déjà. Ensuite, c'est fais de ton mieux, évidemment. Toujours. Donc les je m'en foutiste, les gens qui s'en foutent, non, ça c'est pas possible. On peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, on apprend ses erreurs, on évolue, on répare ses erreurs. Voilà. Mmh. Ne pas faire de suppositions. Hein. Il faut pas imaginer que les gens ils pensent, t'en sais rien, ce qu'ils ont dans la tête. Les gens peut-être qu'ils ont mal dormi, peut-être que si, peut-être que ça. Tu poses des questions, tu vois, si t'as des doutes. Mmh. Et ça y est, le quatrième. Alors, parole impeccable, pas faire de suppositions, fais de ton mieux et...
N'en fais pas une affaire personnelle.
Tu vois, tu les connais. Ouais. Ben, je sais que tu les connais, mais c'est hyper important. C'est hyper important. C'est tellement...
Alors...
Ça peut paraître bisounours comme ça. Tu sais, les gens disent, je connais pas. Hein. Mais c'est pas grave. Mais tu te rends compte que quand t'as des principes de vie comme ça, même de façon très... très diffuse ou quoi, quand tu penses à ça, quand tu vas dire quelque chose, tu te dis, mais est-ce que ce que je dis,
ça sert?
Est-ce que ce que je dis, c'est non seulement utile, mais est-ce que ça... Enfin, tu vois, c'est... ne jamais humilier les gens en public. Jamais. Jamais. T'as quelque chose à dire, tu le dis en bec à bec. Voilà, tu prends les gens à part. C'est comme les enfants, tu grondes pas tes enfants devant tout le monde. Et pas devant les frères et sœurs non plus. Tu dis les choses.
L'éducation.
Tu vois, pour moi, ça, c'est des choses fondamentales. Et du coup, tu respectes les gens. Et les gens te respectent.
Tu dis, tu donnes ta confiance tout à l'heure. On va prendre l'exemple de la confiance parce que c'est un sujet moi que j'aime bien. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un abuse ta confiance, justement?
C'est difficile pour moi. C'est difficile.
C'est la patronne.
Alors, je vais te dire, il m'est arrivé un truc là. Alors, c'est pas un collaborateur, c'est un fournisseur. Qui me ment. Je sais pas pourquoi il fait ça. Alors, une fois, je m'en suis rendu compte, pourquoi tu fais ça? Enfin, tu vois, j'ai deux fois. 4 fois. Donc là, ben, j'ai malheureusement aujourd'hui, bon voilà, c'est un partenaire, voilà, mais je ne partagerai plus rien avec cette personne. Enfin, voilà. Donc, un collaborateur déviant, j'ai eu le cas dans mon équipe précédente. Il y a une forme d'exclusion, hein, forcément. Il y a une forme d'exclusion. Et du coup, soit les gens se satisfont de cette exclusion à partir du moment où ça ne met pas la pomme, ne pourrit pas tout le panier. Sinon, il faut arrêter la collaboration, quoi.
Moi, je pense que tu peux pas prôner des valeurs et ne pas les faire respecter.
Ah non, c'est pas possible.
Parce qu'en fait, sinon, c'est des valeurs en papier mâché, c'est un poster. Nous, on a confiance, et puis t'as un manager, il contrôle tout, il machin.
Non.
Moi, je pense que tu ne peux pas garder le comportement, donc tu fais un feedback, tu dis, tu vois, ce comportement ne correspond pas à nos valeurs, etc.
Exactement.
Et personne n'est incapable de le faire, malheureusement, tu ne peux pas garder la personne.
Tu ne peux pas garder. Tu peux pas. Mais au même titre que tu peux pas continuer à travailler avec des gens, c'est fondamental. Et la confiance, on peut dire que tu l'as d'office, mais quand elle est brisée, c'est très compliqué de la tu peux recoller les morceaux, mais voilà, c'est pas.
Et puis, quand même, ce qui est vraiment intéressant avec les cultures, les valeurs dont tu as parlé, c'est que ça t'amène des performances dans la boîte.
Ah bah évidemment.
Moi, c'est validation. Parce que sinon, on pourrait. C'est là où ça. Moi, les deux endroits où le fait que tu aies des valeurs comme la confiance, etc., où le bisounoursisme s'arrête, c'est un, j'exclus quelqu'un qui ne.
Il n'y a pas de complaisance.
Pas les valeurs, parce que sinon je suis complaisant et je n'applique pas les valeurs. Deux, j'ai un résultat économique. Pas pour le résultat économique lui-même, mais qui garantit.
Mais c'est challengeant. Mais nous, moi, j'adore.
La pérennité du groupe, etc.
Mais bien sûr. Et puis quand nos clients ils gagnent des appels d'offres, c'est génial. Ah mais on est hyper contents. Bien sûr.
Alors, on arrive à la fin de notre interview. Moi, il y a une question que je pose toujours en dernier. C'est pour les managers qui écoutent, est-ce que tu aurais 2 ou 3 outils concrets que tu pourrais leur donner, peut-être justement pour créer cet engagement dans leurs équipes, ou des attitudes, ou des conseils, mais quelque chose d'assez concret, tu vois, avec lesquels ils peuvent repartir et se dire, ah, moi, je vais appliquer ça dans mon management.
Moi, j'aurais te dire déjà, ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on se fasse à nous. Enfin, c'est quelque chose de, voilà, une espèce de comportement entre guillemets exemplaire, enfin voilà, en tout cas être, voilà, évidemment être authentique, hein, mais bon, ça c'est tellement bateau que j'ai presque honte de le dire, mais voilà, il y aura toujours des gens.
Qu'est-ce que tu veux dire authentique? Ça veut dire être lisible pour tes collaborateurs? C'est parce que pareil,
authentique, après Moi, je dis ça par rapport à moi et ma nature. Moi, tu vois, je suis pas capable de mettre des filtres, je suis pas capable de mettre un comportement, rentrer dans l'entreprise et non, on peut pas parler comme ça. Moi, je sais pas. Je suis authentique. Je suis vulnérable parfois. Je suis humaine. Quand je dis authentique, c'est être humain. Tu dis les choses, c'est bien, tu dis que c'est bien, hein. C'est pas bien, tu dis que c'est pas bien, enfin je veux dire, mais c'est simple, voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Les one-to-one doivent permettre de coacher, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que bien prendre en compte que nos pensées font notre réalité, hein. Donc c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, ce que tu penses va créer ton émotion qui va générer ton action. Donc, c'est sûr que si tu te lèves le matin en disant « Mon boss est un con, je travaille dans une boîte de merde, j'ai des collaborateurs. » Ah oui, aussi, si. Ne jamais critiquer son équipe. Une équipe a un mauvais chef, c'est tout. Ouais. Parce que les gens... Enfin, voilà, tu peux pas... Quand tu dis « Oui, ils sont tous nuls et tout, machin », c'est pas vrai. C'est pas vrai.
En tout cas, ils sont dans un environnement qui les rend nuls, peut-être, mais du
peut-être,
coup,
peut-être, peut-être, exactement, exactement. On peut pas mettre la faute sur les gens. Voilà, du bon sens. Moi, je dis souvent à mes collaboratrices, vous avez un problème, vous réfléchissez aux solutions. Si vous avez un doute, on en parle. Par contre, c'est toujours dans les valeurs de l'entreprise, quoi. Donc vous défendez vos clients, vous faites du mieux que vous pouvez, voilà, les gens nous font confiance, ils nous confient un service, on doit faire le service correctement, mais on fait pas de truc à l'envers, quoi. On monte pas, on reste dans un, voilà, on remet les gens en ligne quand ils sont dans un ils dévient de leur, je dirais, prérogative, ou que le travail n'est pas bien fait, la performance n'est pas là, mais voilà, après, et on le fait correctement, on parle correctement aux gens. Mais bon, ça, elles ont, moi, j'ai pas besoin de leur dire, c'est, voilà, c'est.
Bah, t'as besoin mais de leur dire, enfin, voilà, c'est. Ok. Ok, ok, bah, écoute, super, super expérience partagée, ça m'a vraiment, vraiment plu.
Merci.
On te souhaite que ça se développe dans le sens où tu veux.
Et bah écoute, bah c'est gentil. Je te remercie beaucoup et puis ben au plaisir.
À la prochaine.
Donne-nous des nouvelles. Très bien. Merci. Salut.